Bonjour David, bonjour à tous. Après Bressuire, en début de semaine, la ville de Mel a été visée hier soir par la colère des agriculteurs de la coordination rurale. Des tonnes de déchets ont été déversées en différents lieux. Les artisans du bâtiment également en colère. Ils ont exposé leurs griefs partout en France hier, notamment à la préfecture des Deux-Sèvres, à Niort. Les collectivités dans le flou à l'heure d'établir leur budget 2026. Sans visibilité quant aux dotations de l'État, des zones d'ombre subsistent. L'étang du domaine de la Roche à Surizé va faire l'objet de travaux structurants. 500 000 euros vont y être consacrés. C'est aujourd'hui la journée internationale des migrants. Dans ce cadre, le collectif départemental appelle à un rassemblement festif ce soir à Niort. 5 circuits de trail viennent d'être mis en service en Touarcé. Ils permettent de découvrir le patrimoine local et les paysages de manière différente. Cholet Basket a deux doigts de créer l'exploit hier soir en Champions League. Le club des Mauges s'en est fait incliner que de 2 petits points face aux Espagnols de Badalone. Quant à la météo, le temps sera variable cet après-midi avec éclaircies et quelques passages nuageux. La colère agricole s'exprime crescendo depuis le début de la semaine avec en toile de fond la gestion de la crise sanitaire liée à la dermatose nodulaire contagieuse et les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Après la mobilisation lundi et mardi à Bressuire, une nouvelle action des agriculteurs a eu lieu hier soir à Mel à 21h. 60 tracteurs, dont 40 aubaines pleines de paille, de fumier, de pneus, de déchets plastiques, de tuyaux et même de plaques d'amiante. Et plus de 200 personnes se sont rassemblées au rond-point de la colonne et y ont tenu une assemblée générale sous les yeux de gendarmes et d'agents des renseignements territoriaux. À 22h, ces tracteurs et manifestants ont investi le centre-ville de Mel et pendant plus de 2 heures ont déversé les contenus de leur benne sur différents points de la ville. Ont été visés la mairie, le siège de la communauté de communes, la permanence de la députée Delphine Bateau, mais aussi la ferme de la Genellerie, l'école maternelle Jacques Prévert, la place René Groussard, réduisant la voie de circulation, ou encore les terrasses du café du boulevard et de la maison de la presse. Dès ce matin 5h30, les agents de la ville sont sur le front pour dégager les accès et commencer le déblaiement. La gestion de la crise liée à la DNC est justement au cœur de notre chronique à travers champs présentée par Ludo et Jacqueline. Chronique à retrouver sur notre site internet colline-laradio.fr. Les artisans du BTP appelés à se mobiliser hier à l'appel de la CAPEB, la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. Ces derniers s'alarment notamment sur les incertitudes qui pèsent sur MaPrimeRénov, un dispositif dont les démarches deviennent de plus en plus complexes. Mais ce n'est pas le seul point de crispation. En Deux-Sèvres, il était ainsi une quinzaine devant les grilles de la préfecture de Niort hier matin, avant qu'une délégation ne soit reçue par les services préfectoraux. Le président de la CAPEB des Deux-Sèvres, Michael Berthelot.
Les choses qui focalisent sont à la fois MaPrimeRénov, la récupération des déchets de chantier, le statut de la micro-entreprise et en même temps, pour les artisans des travaux publics, le gasoil non routier.
Quelles sont les conséquences pour les entreprises, les petites entreprises du bâtiment ?
Je dirais que c'est multiple. Selon les cas, ça peut être pour MaPrimeRénov, nos clients, avec les différentes péripéties de MaPrimeRénov, ne savent plus, je dirais, où se vouer. Est-ce que j'ai encore le droit à MaPrimeRénov? Est-ce que j'ai pas le droit? Est-ce que l'isolation rentre dedans? Est-ce que l'isolation rentre pas dedans? Voilà, il y a beaucoup d'interrogations. Cette interrogation crée du doute. Et un client qui a du doute, c'est un client qui ne fait pas. Nos entreprises sont des gens qui sont responsables, qui ont un savoir-faire, qui ont un savoir-être. On n'est pas des entreprises commerciales. On fait vivre notre territoire et demain, on a envie d'être là au même titre que, je dirais, les différentes entreprises de proximité, que sont nos boulangers, que sont nos charcutiers. On est nécessaire sur les territoires et il faut qu'on reprenne à réécouter ces entreprises de proximité.
Michael Berthelot, le président de la CAPEB des Deux-Sèvres. C'est un véritable casse-tête pour les collectivités. Comment établir un budget quand les recettes dépendent en grande partie de ce que leur verse l'État et alors que le projet de loi de finances fait encore attendre? Sans rentrer dans les détails techniques, il faut tout de même savoir que les recettes sont principalement assurées par la fiscalité et par des dotations de l'État et autres subventions. Donc, les marges de manœuvre et les leviers d'action sont restreints pour une collectivité comme l'Aglo de Bé, qui débattait de ses dotations budgétaires mardi soir dernier. Claude Pouzin, vice-président en charge des finances.
C'est le côté recettes qui nous interpelle un peu sur ce rapport d'orientation budgétaire, puisque on ne connaît pas vraiment l'état de nos recettes, notamment fiscales, pour l'année et les concours de l'État sur l'année 2026. Donc on fait un budget un petit peu dans le brouillard. Mais ce qui nous incite d'autant plus à resserrer autant que faire se peut les dépenses pour présenter un budget qui soit mieux qu'à l'équilibre pour se dégager des marges de manœuvre pour investir, puisque c'est ça l'essentiel.
Et c'est Claude Pouzin conserve une certaine sérénité car il n'y a pas péril en la demeure. Pour Pierre-Yves Marolo, le président de l'Aglo de B, établir le budget en ce moment, c'est comme jouer à un jeu sans en connaître les règles.
On ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Encore, on sait qu'on aura des diminutions. Ça, on a été des diminutions d'aide de l'État, par exemple. On fait un gros travail là depuis maintenant 3 semaines avec des réunions avec tous les services. Bon, il y avait une feuille de route très claire, c'est de limiter au maximum l'augmentation. On sait très bien que quand on a des budgets comme ça incertains, les fonctionnements, on peut pas trop y toucher et que c'est malheureusement sur les investissements qu'on va diminuer. Et on sait aussi que 70% de nos investissements sont assumés, je parle de la partie travaux, par des entreprises locales au sens large. Les élections qui approchent font que de toute façon, il faut qu'on vote le budget début février. Mais je pense que la nouvelle équipe qui sera en place à partir du mois d'avril aura sans doute à faire des corrections.
Le vote du budget pour l'Aglo de B est prévu pour le 3 février. Nous l'évoquions hier, la ville de Cerisay a fléché près de 500 000 euros d'investissement sur le domaine de la Roche et il a fallu délibérer en ce sens dès lundi soir dernier en conseil municipal pour enclencher les demandes de subventions. Les précisions du maire Johnny Brosseau.
On a une obligation légale, c'est des éléments d'aménagement et de sécurité liés à l'étang du domaine de la Roche et à l'aménagement de la digue qui contient tout l'étang et qui a besoin d'un confortement, d'une mise aux normes. Donc ça passera bien sûr par une phase de vidange pour entrevoir ensuite des travaux structurants sur cette digue et le chemin du domaine de la Roche. Donc pour ça, il y a un calendrier très spécifique. Les services de l'État demandent, si on veut bénéficier de moyens dans le cadre d'une dotation d'équipement, eh bien de devoir déposer avant le 22 décembre une délibération avec un stade très avancé d'études de travaux. C'est ce qu'on fait avec un cabinet d'études qui nous accompagne depuis près d'un an et donc sur lequel on va solliciter auprès des services de l'État une subvention qui va avoisiner les 280 000 euros dont on souhaite obtenir eu égard à l'enjeu. On n'est pas sur du loisir, on n'est pas sur du ludique, on est sur de la sécurité.
Le bureau d'études planche depuis plusieurs semaines sur l'avant-projet définitif et c'est loin, bien loin d'être du bénévolat car il faut déjà compter 50 000 euros sur ses prestations intellectuelles.
Toutes les collectivités y sont contraintes, on n'a pas forcément les services intégrés, on est obligé de faire appel à des bureaux d'études, des cabinets spécialisés. Donc on a l'exemple de cet étang du domaine de la Roche qui est un ouvrage très spécifique qui nécessite des compétences très particulières avec un cabinet qui est du sud de la France qui nous accompagne sur cette démarche et les prestations intellectuelles sur cet ouvrage, eh bien, c'est de l'ordre de 50 000 euros. Mais ce soir, on a aussi voté une enveloppe pour accompagner la destruction du Carrefour Contact qui s'envisage sur le premier semestre 2026 pour entrevoir la réalisation ensuite de 14 logements et ça impacte l'environnement direct du Carrefour Contact avec la réaffectation, la requalification de la place du Chêne Vert. Et ce soir, on a voté là aussi une enveloppe de maîtrise d'œuvre, de prestations intellectuelles pour réfléchir à comment organiser cet espace, circulation, stationnement, verdissement, de 40 000 euros pour pouvoir nous accompagner sur ces éléments techniques avant d'entrevoir des travaux.
Et puis à noter que le directeur général des services, Stéphane Raffin, a testé lors de ce conseil municipal lundi soir un nouveau dispositif d'enregistrement faisant appel à l'intelligence artificielle, permettant de restituer et de résumer tout ce qui a été dit en temps réel. Reportage signé Fabien Gazeau. Ce 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants et le collectif Accompagnement Migrants 79, qui fédère les principales associations départementales, leur venant en aide, se rassemblera ce jeudi à 18h rue Victor Hugo à Niort pour un moment festif de lutte contre les préjugés anti-migrants. Gilles Maréchal de l'Ardib s'exprime au nom du collectif au micro de Fabien Gazeau.
Les difficultés sont à plein de niveaux, quoi, que ce soit l'école, le logement, la santé, la culture, le travail, quoi. C'est en grande difficulté pour s'insérer pleinement. D'ailleurs, qu'ils aient des papiers ou qu'ils soient sans papiers, les sans titre de séjour en premier, mais ceux qui ont des titres de séjour sont de plus en plus en situation de précarité continue, quoi. Parce que les titres de séjour sont de plus en plus temporaires, quoi. Mais ils contribuent de façon toute simple au fonctionnement de la France, hein, et ils sont une part très très importante dans l'hôtellerie, la restauration, dans les travaux publics, dans l'aide à la personne, jusque dans le secteur hospitalier, dans l'agroalimentaire, dans notre secteur, quoi. Ils sont très très présents et ils sont indispensables. Et donc l'enjeu, c'est de reconnaître cette part qu'ils apportent à l'économie française, et c'est de permettre qu'ils soient reconnus pleinement.
Et à l'occasion donc de la Journée internationale des migrants, ce jeudi, un rassemblement est prévu, je vous le rappelle, à 18h, rue Victor Hugo, à Niort, auprès du Grand Sapin. 300 000 euros, le montant de l'aide du loto du patrimoine en faveur de la Maison des artistes de Thouars. Ce site recevra par ailleurs une dotation complémentaire de 100 000 euros du fonds AXA. Il fait partie des 6 sites régionaux sélectionnés grâce à un vote en ligne organisé du 19 septembre au 13 octobre dernier, réunissant plus de 50 000 internautes. À l'issue de sa restauration, le lieu redeviendra un espace culturel, artistique et artisanal, permettant l'accueil d'artistes amateurs, professionnels ou d'artisans d'art. Les étages seront disponibles pour un hébergement dans le cadre de résidence artistique. Engagée en septembre dernier, la fin des travaux est envisagée pour début 2027. Menzo soprano au timbre exceptionnel, Anne Pareuil et le talentueux organiste Jean-Charles Benoît célébreront la magie de Noël à travers un concert qui aura lieu demain vendredi 19 décembre à 20h30 au conservatoire Tindeau de Thouars. Au programme, des airs variés de Noël allemand, écrits par Jean-Sébastien Bach, ainsi que sa cantate 170. Les élèves des classes d'orgue et de chant lyrique assureront la première partie avec des Noëls français du XVIIIe siècle. Un concert magique en perspective ce vendredi soir. Réservation auprès de la Maison du Thouarsais ou sur maisondutoircais.com. Le tarif de gratuit à 6 et 10 euros. Après 22 ans de programmation artistique pour les festivals Éclat de Voix, Terre de Danse et Voix et Danse, Anne-Sophie Allant quitte ses fonctions au sein de l'association Voix et Danse, où elle sera remplacée par Florence Simon. Anne-Sophie Allant réintègre l'Aglo de B en tant que chargée de mission culture et cohésion sociale. Le Thouarsais se jette dans la course nature avec un label Handispot. Après le Niortais et la Gâtine, le Thouarsais succombe à l'appel du trail, c'est-à-dire la course sur les pistes et les sentiers. Avec des millions de pratiquants, du débutant au confirmé, ce public constitue un gisement de clientèle large et équipé d'un pouvoir d'achat plutôt bien assis. C'est pourquoi l'Office de tourisme n'a pas voulu rester les deux pieds dans les mêmes baskets, comme l'explique Esther Maillet, l'élue référente au micro-colline de notre correspondant thouarsais, Dominique Hérault.
On a 5 parcours balisés, dont un qui est urban trail, comme on dit, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur de Thouars. On a le cirque de Missé, on en a un qui est à Argentine, au bord du Thouet, un qui va de Luzé à la voûte de Montcou, et puis les carrières et la vallée du Pressoir. Donc c'est à chaque fois des paysages très différents. Ce travail était conjoint avec tous les services de la communauté de communes, évidemment la maison du Thouarsais, le service des sports, le service du patrimoine, les services techniques et toutes les actions sportives du territoire, notamment l'UST. Ce qui est important de dire, c'est qu'on a travaillé, comme beaucoup de stations trail, avec On Piste, qui fait partie du groupe Rossignol. Ils abordent leur savoir, ils nous aident à tracer les parcours, et puis après il va y avoir une appli que les gens auront sur leur portable qui trace tous les parcours.
Parmi les 5 parcours nature, 3 sont ouverts à des pratiquants particuliers. Esther Maillet.
C'est-à-dire des parcours qui sont labellisés, on dit handispot, c'est-à-dire pour le handicap. C'est une façon de dire que vraiment c'est un territoire inclusif et que les gens, même avec un handicap, peuvent aller sur ces parcours-là. En fait, c'est quelque chose qui va être bien pour nous parce que ça se rajoute et on voit bien que c'est les tendances aujourd'hui avec ce tourisme sportif qui rajeunit un peu les touristes qu'on a l'habitude de recevoir. Et je pense qu'avec l'offre sportive qu'il y a maintenant à Thouars, avec le skatepark, avec les bassins du Thouet, etc., je pense que c'est une ville qui a pas mal d'atouts.
Montant total de l'investissement, environ 40 000 euros, dont 24 000 subventionnés par le GAL, c'est-à-dire des fonds européens. Reportage signé Dominique Hérault. On en arrive à l'actualité sportive. Cholet Basket est passé tout près d'un gros coup face aux Espagnols de Badalone hier soir en Champions League. Match que vous avez peut-être suivi en direct sur Colline. Les protégés de Fabrice Lefrançois se sont inclinés de 2 petits points seulement, 89 à 87, et n'auront pas l'avantage du terrain en barrage. Mais c'était une rencontre qui peut également servir de révélateur après la victoire du week-end dernier sur le parquet de l'Asvel. L'ailier Cholté Modira au micro Colline de François Larue.
C'est un match qu'il faut garder. Parce qu'on a joué avec beaucoup, pas mal d'absents, avec Q et Jam, deux éléments importants de notre équipe. quand on décide de mettre de l'intensité, bah, on voit les résultats directement. Et maintenant, il faut mieux rentrer dans les matchs. Ça dépend des matchs. Il y a des matchs où on rentre très bien, des matchs comme aujourd'hui, on a mal commencé, mais ça arrive. Après, là, on va essayer de construire sur ça pour se préparer au mieux pour Paris. Et je pense que ça devrait le faire là-bas. Et si on continue sur cette lancée, cette mentalité, continue sur notre lancée de l'ASVEL et de ce soir pour aller chercher la victoire là-bas.
Retour en effet à la Betclic Elite dès dimanche avec un déplacement à Paris, match à 19h. Et puis j'en profite pour vous indiquer que Fabrice Lefrançois, le coach de CB, est l'invité ce mois-ci de Cholet Basket Podcast, réalisé par Ouest France et Colline. L'enregistrement sera une nouvelle fois réalisé en public ce soir à 19h05. Il est prudent de réserver pour s'assurer d'avoir une place dans l'établissement Choletais.